En ce moment, nous parlons, je disais la dernière fois, nous parlons d'amour. Nous parlons beaucoup d'amour et puis la dernière fois, le message concernait l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui vient transformer notre amour humain. Cet amour de Dieu qui nous rend capables d'aimer, de nous aimer les uns les autres, comme Jésus-Christ nous a aimés. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce que humainement c'est impossible. Ça n'est possible que par l'amour de Dieu. Et plus nous réalisons cet amour, plus tu réalises cet amour que Dieu a pour toi, plus tu l'aimes. Et plus tu es rendu capable d'aimer les uns les autres, d'aimer les autres autour de toi et de t'aimer toi. Selon cet amour de Dieu. Ça, c'est une joie. Et on m'a posé une question à l'issue de la dernière prédication. Mais comment on fait en même temps pour... comment on fait pour s'aimer soi quand on a du mal à s'aimer, en particulier quand nos proches, parce que c'est nos proches qui nous ont pas aimés. Comment on fait pour vivre cet amour avec nos proches quand on nous a fait du mal? De manière générale, comment est-ce que l'on fait pour aimer comme Jésus nous le commande quand on nous a fait du mal? Et plus particulièrement, quand c'est parmi nos proches qu'on nous a fait du mal. Quand on a vécu une maltraitance, un abus, quelque chose de difficile qui n'aurait pas dû être de la part des personnes qui sont censées nous aimer. Et à raison de plus, de la part des personnes qui, si on parle du père, enfin, je parle des parents en général, hein, pas que le père et la mère, les frères, les sœurs, toute la famille, tous les parents, les proches parents. Mais comment on fait en particulier quand c'est le père et la mère, les personnes à partir de l'amour desquelles nous sommes censés nous construire? Comment est-ce que l'on fait pour aimer? Dans ces cas-là, tout en ayant Jésus. Je crois que c'est une question importante qui concerne pas seulement ceux qui sont peut-être qui peuvent être directement touchés ou qui ont pu être directement touchés, mais qui nous concerne tous. Ça nous permet de comprendre déjà les personnes qui l'ont directement vécu. Et puis tous, on a affaire à cette question : comment est-ce que j'aime quand on m'a fait du mal ? Quand ce sont les personnes qui sont censées m'aimer, en plus, qui m'ont fait du mal. Dans la Bible, on n'a pas de, d'exemple de situation, d'histoire qui met en scène des enfants qui sont maltraités par leurs parents. On n'a pas d'exemple à partir duquel on pourrait vraiment s'appuyer pour répondre à cette question. Alors bien sûr, il y a quand même des... par exemple, on a des rois de Juda, Ahaz et Manassé, qui ont tué leur... qui ont sacrifié leur fils à des divinités, mais on n'a pas de détails sur l'histoire. Et puis, dans la parole, finalement, on a surtout des versets qui vont nous dire que quand un enfant a été particulièrement désobéissant à ses parents, et qu'il n'a pas respecté ses parents, qu'il n'a pas honoré ses parents, il peut être lapidé. Dans l'ancienne alliance, c'était comme ça. Et on n'a pas l'inverse. On a quand même, dans le Nouveau Testament, Jésus, un moment, qui vient dire, quand il parle des enfants, c'est en Matthieu 9, 12, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi... » Donc scandalisait, c'est-à-dire s'il était une occasion de chute, s'il lui faisait du mal, s'il lui faisait du mal d'une manière même où ça pouvait troubler son chemin avec Dieu, on pourrait le comprendre comme ça. Il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. C'est vraiment pas sympa du tout. C'est la justice implacable de Dieu pour les personnes qui auraient fait du mal comme ça à des enfants sans s'en repentir, sans le reconnaître. Et quand Jésus dit « il vaudrait mieux qu'on leur fasse ça », ce qui attend ces personnes qui ne se repentent pas, c'est le feu de la géhenne. quand on lit la suite du texte. Donc c'est vraiment très dur ce que dit Jésus. Mais là, ce qu'il dit, ça concerne finalement toutes les personnes, tous les adultes, pas seulement les proches parents, toutes les personnes en général qui vont faire du mal à des enfants. Donc, on n'a pas de situation vraiment précise par rapport à ce que je dis. Mais il y a quand même une situation, un exemple sur lequel on peut s'appuyer dans la Bible, qui concerne un homme de Dieu qui a été maltraité, pas par ses parents, mais par ses proches parents, en l'occurrence par ses frères. C'est Joseph. Joseph, fils de Jacob. Joseph, qui était le préféré de son père Jacob, et du coup, qui était jalousé par ses frères. Il faut dire qu'il en rajoutait un petit peu aussi. Mais il était jalousé par ses frères, mais d'une manière, c'est allé à tel point que ses frères ont voulu le tuer. Heureusement, Dieu est intervenu et finalement, les circonstances ont changé. Ils l'ont seulement vendu. C'est plus sympa, mais c'est pas forcément ce que l'on peut attendre de frères, n'est-ce pas? De la part de frères, c'est un acte ignoble. C'est un acte inadmissible. C'est un acte d'ailleurs qui peut être le modèle d'une maltraitance, d'un abus que l'on peut vivre, que certains peuvent vivre au sein de leur propre famille. Dans quelle mesure on peut vendre son enfant à son propre désir de contrôle, par exemple. Qu'on peut vendre son enfant à ses pulsions. Qu'on peut vendre comme ça quelqu'un, un enfant, parce qu'on le traite comme un objet. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Il a été traité comme un objet par ses frères. Et la question qui se pose, mais alors comment Joseph il a fait pour aimer ses frères par la suite? Comment Joseph a fait pour aimer ses frères par la suite? Et il y a une occasion qui s'est présentée. Il y a une occasion qui s'est présentée pour changer les choses. Joseph, suite à cette injustice de la part de ses frères, s'est retrouvé esclave. Il s'est retrouvé, suite à une nouvelle injustice, il s'est retrouvé en prison. Mais Dieu a toujours été là et finalement, il s'est retrouvé gouverneur d'Égypte. Et alors que ses frères vont le retrouver, il est gouverneur d'Égypte. Et je voudrais revenir avec vous sur le début de ce moment de la vie de Joseph qu'on trouve dans le chapitre 42 de la Genèse. Et je vais commencer la lecture à partir du verset 7. En fait, là, donc il y a une famine en Égypte, dans tout le Moyen-Orient, une famine à laquelle l'Égypte a pu se préparer grâce à Joseph, parce que Pharaon a reçu des rêves que Joseph a pu interpréter, et parce qu'il a pu interpréter ses rêves comme quoi ça allait être une famine. Du coup, c'est comme ça que Joseph s'est retrouvé gouverneur d'Égypte. Et il a pu préparer le pays d'Égypte à cette famine. Et là, donc, alentour, les autres nations sont aussi victimes de la famine, et en particulier la famille de Jacob. Et donc, Jacob envoie ses fils pour aller acheter du grain. Et il se retrouve devant Joseph. Au verset 7. Et voici, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il agit envers eux comme s'il était un étranger. Et leur parla durement. Il leur demanda « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Et Joseph reconnut ses frères, mais ils ne le reconnurent pas. Se souvenant des rêves qu'il avait faits à leur sujet, Joseph leur dit « Vous êtes des espions. Vous êtes venus repérer les faiblesses de notre pays. »« Non, mon seigneur, » répondirent-ils, « tes serviteurs sont venus acheter des vivres. » Nous sommes tous fils d'un seul homme. Nous sommes des hommes droits. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Non, leur dit-il. Vous êtes venus espionner les faiblesses de notre pays. Ils dirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un seul homme, au pays de Canaan. Le plus jeune est resté avec notre père et un autre n'est plus. C'est ce que j'ai dit, répondit Joseph. Vous êtes des espions. Voici comment vous prouverez que vous ne mentez pas. Pharaon est vivant. Vous ne partirez pas d'ici à moins que votre plus jeune frère ne vienne ici. Envoyez l'un de vous et qu'il amène votre frère. Pendant ce temps, vous serez mis en détention. Cela montrera s'il y a quelque vérité dans ce que vous dites. Sinon, aussi vrai que Pharaon est vivant, vous êtes certainement des espions. Et il les mit tous ensemble en prison pendant 3 jours. Ça ne rigole pas. Effectivement, donc, Joseph met ses frères en prison pendant 3 jours. Et puis, au bout du 3e jour, il retourne les voir et il conclut cet accord avec eux. Siméon reste, il garde Siméon, et les autres frères, vous retournez auprès de votre père et vous ramènerez, donc vous retournez auprès de votre père avec des vivres et vous ramènerez votre frère, votre plus jeune frère, pour prouver que ce que vous dites est vrai. Et donc, il les renvoie. Et à leur insu, avant qu'ils repartent, Joseph vient remettre l'argent dans leur sac avec lequel ils étaient censés payer ce qu'ils étaient venus acheter. Et quand ils se rendent compte que l'argent est dans leur sac, « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ne comprennent rien. Déjà, on voit, on lit, si vous lisez la suite, que ça travaille dans leur cœur. Ça travaille dans leur cœur et là, ils se disent « Mais pourquoi il nous arrive tout cela ? Le sang de Joseph nous est redemandé. » Il y a une culpabilité qui est là. Il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur qui est là. Mais ça reste entre eux. Ils en parlent entre eux. Et ils se demandent, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait ? Ils arrivent devant Jacob. Et là, Jacob voit qu'il n'y a plus Siméon. Il lui explique que s'ils veulent retrouver Siméon, il faut retourner vers le gouverneur d'Égypte et avec Benjamin. Hors de question. Pour Jacob, c'est hors de question parce qu'il a déjà perdu Joseph, son fils préféré, et il n'est pas question de perdre Benjamin, son deuxième fils préféré. Ses fils qu'il préfère parce que ce sont les fils de Rachel, la femme qu'il préférait. Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel, et il préférait Rachel. Donc c'est hors de question. Mais à un moment, la nourriture vient à manquer. Bon, maintenant, retourner en Égypte, demander de nouveau, acheter de nouveau des vivres. Mais nous ne pouvons pas y aller. Le gouverneur d'Égypte était clair. Si nous ne revenons pas avec Benjamin, ça ne sert à rien de se présenter devant lui. Et finalement, Judas vient lui dire, écoute, je me porte moi-même garant de la sécurité de Benjamin. J'en serai responsable devant toi. Si je ne parviens pas à te le ramener, à le présenter devant ta face, j'emporterai le blâme pour toujours. C'est au chapitre 43. Et là, Jacob cède. Ok, alors allez-y, prenez Benjamin. Et Jacob s'en remet à Dieu. Là où quelque part, est-ce que vraiment, dans quelle mesure Dieu avait de la place dans son amour, dans sa manière de vouloir garder comme ça, si fortement, Benjamin auprès de lui, dans quelle mesure il faisait confiance à Dieu ? Et là, il s'en remet à Dieu en disant, bah voilà, si mes fils doivent m'enlever, alors que la volonté de Dieu se fasse, mais vous retournez en Égypte. Ils y retournent avec Benjamin, et là, Joseph les accueille. Et aux surprises, il les accueille autour d'un repas, et c'est plutôt chaleureux, et puis même à Benjamin, lui, il a 5 fois plus que ses frères. Est-ce que Joseph est en train de tester où en est la jalousie de ses frères ? Mais voilà, c'est vraiment un repas qui se passe dans la bonne humeur, dans la joie. Et là, ils peuvent repartir de nouveau avec le grain qu'ils ont acheté. Et de nouveau, à leur insu, avant qu'ils partent, Joseph fait remettre l'argent avec lequel ils doivent payer le grain. Et aussi, il met dans le sac de Benjamin une coupe précieuse. Une coupe précieuse et du coup, il les laisse repartir. Et l'intendant de Joseph les rattrape, leur disant « Hé, mais vous êtes des voleurs ! Quoi ? Comment ?» Et là, ils regardent leur sac, ils voient l'argent et surtout « Vous êtes partis, mon maître vous a honoré par un repas et vous, vous le volez et vous lui prenez sa coupe précieuse. » La coupe avec laquelle, soi-disant, il faisait de la divination. Alors, je ne sais pas si Joseph en faisait, je ne pense pas. Pour les Égyptiens, en tout cas, il y avait ces pratiques-là. Et là, Mais c'est, non, nous n'avons rien pris, nous pouvons te l'assurer. Alors, frère, entre nous, dans le sac duquel tu trouveras cette coupe, alors il restera esclave de ton maître. Et il regarde les sacs et ah, la coupe est dans le sac de Benjamin. Ah, mon Dieu, il arrive surtout ce qu'il ne devait pas arriver. Il fallait surtout pas qu'il se passe quelque chose comme ça. Ils arrivent devant Joseph, ils sont complètement accablés, confus, ils savent plus quoi penser. Et Judas vient prendre la parole. Judas, en fait, quand il prend la parole, il représente tous les frères de Joseph, parce que Judas a le droit d'aînesse. C'est-à-dire que Ruben, Siméon et Lévi, ces trois frères aînés, sont tombés en disgrâce. Ruben était allé avec une concubine de son père. Siméon et Lévi avaient usé de violence contre la volonté de leur père. Et donc, du coup, Judas, s'il prend la parole, c'est aussi qu'il représente ses frères. Et là, Judas vient dire, mais on ne peut pas te laisser Benjamin. Si on laisse Benjamin, c'est le dernier fils préféré de notre père, il va mourir, il va en mourir. Il va en mourir. Et là, Judas manifeste son cœur et le cœur de ses frères pour leur père. Et Joseph dévoile son identité. C'est moi, Joseph. Alors là, il tombe par terre, je sais pas. Mais waouh, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Ils n'en reviennent pas. Et Joseph les accueille. Joseph les rassure. Et leur dit, mais s'il s'est passé tout ça, c'est parce que Dieu a permis pour que notre famille soit sauvée de la famine. Et ainsi, il a changé le mal que vous aviez fait, il l'a changé en bien. Voilà donc toute l'histoire de Joseph. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se résout avec ses frères. Et voilà comment Joseph a pu de nouveau aimer ses frères. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment Joseph a fait finalement tout au long, quelle attitude il a eue pour aimer ses frères à nouveau. Il y a trois choses sur lesquelles je vais revenir. Quand on lit d'abord l'histoire, on voit que dès que Joseph revoit ses frères, tout de suite, il leur parle durement. Tout de suite, quand il les reconnaît et qu'ils ne les reconnaissent pas, il en profite. Il leur parle durement. Mais effectivement, mais dans quelle mesure il pouvait y avoir un désir de vengeance? C'est quand même ignoble ce qu'ils lui ont fait. En quelle mesure pouvait y avoir un désir de vengeance, un désir de recevoir justice qui n'est que légitime? Mais dans quelle mesure là aussi, Joseph peut être tenté quelque part de faire justice lui-même? Et là, il se souvient d'un de ses rêves. Il se souvient de ses rêves. Il se souvient de ce rêve où, à un moment, ses frères étaient représentés par une gerbe de blé. Et toutes les gerbes de blé de ses frères se rassemblaient autour de sa gerbe à lui et se prosternaient devant sa gerbe. Et se souvenant de ses rêves, je crois que Joseph comprend une chose. Il comprend effectivement que Dieu veut lui faire justice, mais pas n'importe comment. Il comprend que Dieu avant tout, s'il est juge, Dieu est avant tout un médecin. Dieu, c'est celui qui soigne. Dieu est venu pour nous soigner et pour soigner nos relations. C'est pour cela qu'il est venu. Et quand il lui montre ce rêve, il lui montre comment il veut soigner les relations dans sa famille. Il n'y avait pas que ce rêve-là. Il y avait aussi un rêve où il voyait le soleil qui représentait son père, la lune qui représentait sa mère et 11 étoiles qui représentaient ses frères se prosterner autour de lui. Et ça n'avait pas forcément été bien accueilli par le reste de sa famille, puis en particulier par Jacob. Mais qu'est-ce que lui montre Dieu au travers de ses rêves? Il lui montre non seulement qu'il va faire justice, mais il lui montre aussi que dans sa famille, tout le monde n'est pas à sa place. Tout le monde n'est pas à sa place. Il y a de l'injustice. Ça dysfonctionne. Il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice parce que non seulement lui, il est jalousé par ses frères, bon, et puis il n'est pas forcément non plus très humble quand il parle de ses rêves. Il y a de l'injustice. Et d'où vient cette injustice? Il y a de l'injustice parce que Jacob vient le préférer à ses frères. Et qu'est-ce que ses frères devaient ressentir comme injustice, eux, de leur côté? Et cette injustice, elle est liée à une autre injustice parce que, à un moment, Laban, le beau-père de Jacob, est venu lui donner, alors que Jacob était venu pour Rachel, il vient lui donner, à son insu, de nouveau, Léa, la sœur aînée de Rachel, qui était moins avantagée physiquement. Donc du coup, il fallait être sûr qu'elle trouve un mari. Et Laban, finalement, va être injuste avec Jacob. Et pourquoi est-ce que Laban a été injuste comme ça, etc. On pourrait revenir jusqu'à Adam, ça se trouve. Dieu est venu soigner nos relations qui sont victimes d'injustice. Et ça, c'est du fait de l'œuvre du péché. Et c'est tout ce que comprend Joseph. On ne maltraite pas gratuitement. On ne maltraite pas gratuitement. Un enfant qui a été maltraité, qui a été abusé, ne reproduira pas nécessairement ce dont il a été victime sur d'autres. En l'occurrence, sur d'autres enfants. Mais quelqu'un qui agresse, qui maltraite, qui abuse systématiquement, c'est quelqu'un qui a été lui-même agressé, abusé, maltraité, d'une manière ou d'une autre, systématiquement. Systématiquement. Il y a toujours une injustice qui est à la base. C'est donc avant tout de soins dont nous avons besoin. Et Jésus le dit lui-même, « Je suis venu pour les malades, non pour les bien portants. » Comme un médecin. Jésus est venu en tant que médecin. Dieu est médecin. Dieu est médecin, mais ok, il y a ces injustices qui font que les uns et les autres se sont maltraités, mais chacun aussi a sa part de responsabilité. Et la deuxième chose, c'est que en même temps, Joseph ne transige pas avec la justice. La justice est nécessaire. La justice, quand vous allez chez le médecin va vous donner un traitement qui n'est pas forcément agréable. C'est pas forcément agréable, mais c'est nécessaire. On n'aime pas forcément aller chez le médecin, n'est-ce pas? Mais c'est nécessaire. Et la justice, c'est le médicament nécessaire de Dieu. Et c'est ce que vient appliquer Joseph. Non seulement Joseph, lui aussi, il se comporte en médecin, mais il se comporte en médecin qui applique la justice, qui ne transige pas avec la justice. Il met quand même ses frères en prison. Il met ses frères en prison. Vous allez voir ce que ça fait. Lui, il est resté en prison des années du fait de ce qui s'est passé. Vous allez voir ce que ça fait d'être en prison. Peut-être pas pour des années, mais au moins quelques jours. Vous allez voir ce que ça fait. Joseph est en train de se soigner lui-même en appliquant la justice de Dieu. Il ne fait pas la même chose, mais quand même, il se soigne lui-même. Et c'est comme ça qu'il se met à soigner la relation avec ses frères, par la justice. Il se soigne lui-même et il se fait justice. Il s'applique la justice de Dieu. Il est respectueux envers lui-même. Il s'aime lui-même. C'est une manière de s'aimer lui-même. Il s'appuie sur la justice de Dieu. Et quand il... Qu'est-ce que ça signifie quand il vient remettre l'argent dans les sacs de ses frères? On peut comprendre que, quelque part, il parle du pardon. C'est comme s'il leur remettait leur dette. Il y a une dette. Quand il y a eu du mal de fait, entre deux personnes, il y a une dette. Celui qui vous a fait du mal a une dette envers vous. Et Joseph vient solder les comptes. En mettant ses frères en prison, il vient solder les comptes. Quand il y a eu une agression, quand il y a eu une maltraitance, il y a des comptes à solder du côté de celui qui agresse, celui qui maltraite, comme du côté de celui qui est agressé. Celui qui maltraite, qui agresse, aura à solder le compte de son acte. Ça aura à être reconnu ce qui a été fait devant la justice. Il n'y aura pas forcément de culpabilité, ça n'y arrive pas toujours. Il y a des personnes qui sont mises devant leur acte, qui ne se remettent pas forcément en cause, mais il faut au moins que l'acte soit reconnu. Et la victime, elle aussi, elle aura un compte à solder. Le compte de la rancœur, le compte de la vengeance, le conte de la fausse culpabilité, le conte de se tenir pour responsable de quelque chose dont on n'est pas responsable. Quand un enfant est victime d'un adulte, il n'est pas responsable de rien du tout. Rien du tout. Et il y aura ce compte à solder, le compte des remords, ce sera à solder. Et donc, Joseph vient solder les comptes. La justice est nécessaire. Et c'est ça qui fait que Joseph peut aimer à nouveau. Parce que si Joseph peut aimer, c'est aussi qu'il désire aimer. Il désire aimer ses frères de nouveau. Il désire déjà retrouver son père. Et son père, il va bientôt mourir, il n'est pas sûr de le revoir. Enfin, son père, il est âgé. Il désire aimer son père, enfin retrouver son père parce qu'il l'aime. Mais il désire aussi que la relation avec ses frères soit rétablie. Il désire les aimer, mais de manière juste. Il ne peut pas les aimer, l'amour ne peut pas être comme s'il ne s'était rien passé. L'amour ne peut pas être comme s'il ne s'était rien passé. D'ailleurs, on remarque à plusieurs reprises que Joseph risque de pleurer. Il a envie de pleurer devant ses frères. Et surtout, il se retient. Il se retient de montrer ses émotions. Il pleure quand même. Il se met de côté. Il se met en dehors de la présence de ses frères. Donc, il y a des émotions quand on nous a fait du mal. Et il faut que ces émotions, elles sortent. Il faut que la colère, elle soit reconnue. Il faut que la tristesse, elle soit reconnue. Il faut que la peur, elle soit reconnue. Mais il ne faut pas que ce soit nos émotions qui nous guident et qui nous emportent. Il n'aurait pas fallu que les émotions de Joseph l'empêchent justement d'appliquer la justice. « Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'aime. Voilà. On fait comme si de rien n'était. » Non. Ou alors, vous allez voir ce que vous allez prendre. Comme moi. D'un côté, comme de l'autre, on se laisse emporter par nos émotions. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut soigner nos relations. Et donc, Joseph ne se laisse pas emporter par ses émotions. Et donc, comme il s'est passé tout cela, Joseph peut de nouveau aimer ses frères. Et il peut aussi relire l'histoire qu'ils ont vécue d'une autre manière. Il peut dire, mais Dieu a permis tout cela pour que notre famille soit sauvée. Nous vivons dans un monde où il y a des injustices. Nous vivons dans un monde déchu, dans un monde où il y a le péché. Et nous nous faisons du mal malgré nous, même si nous en sommes responsables. Il y a des choses, c'est malgré nous. Et Dieu vient... Comment est-ce qu'il convertit le mal en bien quand il y a un abus qui a été causé, quand il y a une maltraitance? C'est justement par la justice. Et c'est une manière de dénoncer le mal, de dénoncer le mal dont nous sommes aussi victimes. Et Dieu peut changer les circonstances. Il a changé les circonstances pour Joseph. Il peut changer les circonstances parce qu'il vient pour soigner notre relation et nos relations avec nos proches. Mais si on lit bien, on voit que même si la relation est rétablie avec ses frères, Jacob et ses fils vont aller à Goshen, vivre à Goshen, mais Joseph ne va pas retourner avec eux. Joseph va rester à la cour de Pharaon. Joseph va garder une distance. On peut aimer, mais pas comme s'il ne s'était rien passé. La relation doit être rétablie selon ce qui s'est passé. Elle doit prendre en compte ce qui s'est passé. On n'est pas obligé de rester enfermé dans une histoire familiale qui n'est pas respectueuse de soi-même et des autres. On n'est pas obligé. Et peut-être qu'il y a certaines situations où il faudra, pendant quelques temps, un temps plus ou moins long, ça peut être des années, ça peut être un peu moins, rompre le contact. Il y a des situations où il faudra limiter le contact, mais tout en faisant en sorte qu'il y ait quand même un lien. C'est une manière d'aimer, de continuer à aimer. Donc voilà comment Joseph se soigne et soigne ses relations avec ses proches de manière à ce qu'elles perdurent alors qu'il y a des lois de relation qui ont été transgressées. Voilà comment fait Joseph. Et s'il peut le faire, c'est parce que Dieu le lui permet. S'il peut le faire, c'est parce qu'il marche sur les traces de Dieu. S'il peut le faire, c'est qu'il se tient en médecin comme Dieu, avec la justice de Dieu et avec l'amour de Dieu. Le pardon, il peut pardonner. Le pardon est possible à partir du moment où la justice s'exerce. Et là, on peut de nouveau aimer. Et c'est Jésus qui nous le permet. Jésus, finalement, c'est lui le soin. C'est lui qui te soigne. C'est lui qui nous soigne. Jésus, c'est celui qui nous soigne et qui, par sa justice, pour permettre que l'amour soit de nouveau possible, de manière équilibrée et juste. Amen. On va prier. Seigneur, nous avons lu ta parole, nous avons écouté ta parole et c'est ta parole qui agit dans nos cœurs. Et je prie, Seigneur, que ta parole agisse maintenant dans les cœurs de chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons besoin de toi pour aimer. Nous avons besoin de toi pour aimer ceux qui nous ont fait du mal et combien c'est difficile effectivement quand ceux qui nous ont fait du mal, ce sont ceux qui sont censés nous aimer, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'Église aussi. Seigneur, tu viens nous dire jusqu'à aimer nos ennemis. Seigneur, ton amour nous dépasse. Ton amour nous dépasse et humainement pour nous, c'est impossible. Mais Seigneur, par ton amour, c'est possible. Par ton amour et ta justice, c'est possible. Et les deux sont tellement équilibrés en toi, Seigneur. Là où nous pouvons aller dans un excès ou dans un autre. Et Seigneur, je te remets chaque personne ici. Tu connais le cœur, l'histoire de chacun d'entre nous. Et tu connais, Seigneur, notre besoin de justice. Et je prie, Seigneur, que ta justice soit faite. Je prie, Seigneur, que ce soin que tu veux apporter dans nos cœurs et dans nos relations se fasse. Je te remercie, Jésus, parce que tu es venu. Tu es venu et tu as donné ta vie pour cela. Tu as donné ta vie pour que le monde soit rétabli, selon ton ordre. Tu as donné ta vie pour que notre personne soit rétablie, selon ton ordre. Tu as donné ta vie pour que nos relations soient rétablies, selon ton ordre. Je te remercie, Jésus, pour ce don merveilleux. Et je prie, Seigneur, par ta présence, que ta présence vienne inonder les cœurs de ceux qui en ont besoin. De nous tous, je crois, Seigneur, mais certains, peut-être plus que d'autres, qui ont été directement concernés, Seigneur, impliqués. Seigneur, donne-nous un cœur aussi pour comprendre les personnes qui ont pu être touchées ainsi. Et Seigneur, donne-nous de rejoindre notre propre cœur, parce que chacun, nous avons vécu des offenses d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, vraiment qu'on peut désigner le véritable coupable. Le véritable coupable, c'est le mal, c'est le péché. Qu'on puisse reconnaître aussi notre responsabilité là-dedans. Et Seigneur, que tu viennes avec ton épée, l'épée de ta parole, faire le tri, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je proclame l'œuvre de ton Saint-Esprit maintenant dans nos cœurs. Par la puissance de ta parole, c'est ton Saint-Esprit qui agit. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu vas faire dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les temps à venir, Seigneur. Que ta parole rejoigne nos cœurs. Merci, Seigneur, qu'on puisse méditer cette histoire de Joseph. Merci, Seigneur, que de nouvelles révélations viennent et ancrent, nous ancrent dans ta personne, dans qui tu es. Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Et ceux qui ne le sont pas ici, tu les appelles à devenir tes enfants. Et Seigneur, notre identité, elle est en toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous rétablir en toi. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.